du vent. Anne-Cécile Brun et Arnaud Jouve.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Protéger les océans, c'est un enjeu essentiel. Une solution existe depuis les années 60 aux États-Unis, les aires marines protégées. La France, deuxième puissance maritime du monde, s'en inspire.
On se rend compte qu'on a souvent les mêmes préoccupations. Ils gèrent une aire marine protégée, comme nous dans le parc naturel marin d'Iroise. Et donc, partager les expériences, les échanger, c'est toujours intéressant parce qu'on se rend compte souvent qu'on a les mêmes problèmes. Et ceux qui ont plus d'expérience et d'ancienneté que nous apportent leur réussite, mais aussi leurs échecs. Et c'est l'enrichissement des deux, finalement, qui nous permet, nous, d'avancer, si possible, dans la meilleure direction tout de suite.
Alors, comment protéger des espaces marins? Comment concilier préservation de la biodiversité et activité humaine? Comment garder, dans des conditions optimales, des zones océaniques en proie au réchauffement climatique, aux pollutions, à la surpêche, à l'acidification des océans? Les défis sont multiples et pour répondre, la France s'est dotée d'un outil, l'Agence des aires marines protégées. Ce sera notre dossier du jour tout à l'heure, Anne-Cécile, dans la deuxième partie de l'émission.
J'aime bien les tortues, les flamants roses, les perroquets et les panthères. Il faut pas menacer la nature parce que sinon les animaux ils sont tristes.
C'est sympa ça, vous nous dites, Françoise Castagny, bonjour.
Bonjour.
Ça vous fait sourire cette petite fille. Alors le jeu de cette première partie, c'est de décortiquer l'actualité environnementale avec notre invité du jour, c'est donc vous. Alors pour vous présenter aux auditeurs, vous êtes avocate, vous étiez tête de liste du mouvement politique La Terre Sinon Rien, qui avait une liste en Ile-de-France pour les élections européennes. Vous êtes arrivée en 12e position avec 1,03% des voix, soit 28 767 électeurs. Quand même, on a envie de dire. Mmh. Alors, votre slogan, c'était « Ni de droite, ni de gauche, de la Terre ». C'est ça, le principe?
Oui, c'est tout à fait le principe. Alors, et j'insiste bien, c'est pas seulement « Ni de droite, ni de gauche », c'est surtout « De la Terre ». Je crois qu'il faut revenir sur nos vraies racines. Ce qui compte vraiment pour nous, et ce qui compte, c'est la Terre. C'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous réjouit. Et c'est bien dommage que nous en soyons aussi souvent coupés.
Et on n'en a pas d'autre en plus.
On n'en a pas d'autre, exactement.
Alors, pour commencer ce tour de l'actualité, Arnaud, il y a évidemment le G8 qui se tient actuellement en Italie. Et la difficulté, eh bien, de se mettre d'accord pour lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, et c'est pas gagné. Dans leur projet de déclaration finale, les pays du G8 insistent sur le fait qu'il faut limiter le réchauffement du climat à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ils s'accordent sur le fait qu'il va falloir réduire d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble de la planète et jusqu'à 80% pour les pays industrialisés. Mais, par exemple, la Russie considère que ce projet d'accord est inacceptable. Pour le principal conseiller économique du président Dmitri Medvedev, Arkady Dvorkovitch, nous n'allons pas sacrifier la croissance économique à la seule fin de réduire les émissions. Donc on voit que les choses ne sont pas encore gagnées. Alors on peut s'inquiéter évidemment parce que si à 8 les choses sont déjà aussi compliquées, on se demande qu'est-ce qui va se passer à 190 lors de la grande conférence de Copenhague où il va falloir que tout le monde se mette d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, votre sentiment sur ces négociations?
Bien, je crois déjà qu'il faut saluer un énorme pas qui a été fait, à savoir que la porte est ouverte dans ce G8 aux autres pays. L'arrivée bientôt des pays émergents est une grosse affaire, c'est une grosse nouvelle. Ce sont eux qui vont vraisemblablement tracer de nouvelles pistes dont nous avons besoin. Mais j'ai envie de revenir tout de suite sur la position de la Russie, qui dit très justement que pour elle, c'est pas possible. Mais ce qui est pas possible, elle a dit, c'est on ne peut pas sacrifier la croissance économique à la réduction des émissions. Typiquement là, on se trouve sur le vrai problème. Pourquoi la Russie ne veut-elle pas sacrifier la croissance économique? De quelle croissance économique parle-t-on? Et est-ce que de toute façon, ne pas réduire ses émissions ne condamne pas sûrement et indubitablement la fameuse croissance économique? Donc le problème est mal posé, il n'est pas posé assez globalement et il faut absolument revenir à un autre type de concept, une autre approche de la situation. Alors évidemment, quand on dit approche globale, on se dit « oulala, plus personne ne va rien y comprendre ». Peut-être, prenons la peine de ne rien comprendre pendant un moment, essayons de nous dire que c'est peut-être pas indispensable de trouver tout de suite un accord que personne ne va respecter, et cherchons pourquoi la Russie tient tellement à cette croissance économique. La Russie, comme tous les pays, cherche à ce que ses citoyens soient heureux. Est-ce que, avec la croissance économique telle qu'elle est définie aujourd'hui par les Russes et par l'ensemble de nos pays, est-ce qu'elle conduit ses citoyens au bonheur ? Voilà le vrai problème.
Alors, vous le disiez, hein, aujourd'hui, le G8 s'ouvre aux pays émergents, au G5, comme on dit, hein, le Brésil, la Chine, l'Inde, le Mexique et l'Afrique du Sud. Et là, c'est finalement un peu une autre épine hein, dans le pied des dirigeants du G8 pour trouver un accord sur le climat, puisque le Forum des économies majeures, qui réunit finalement, en gros, le G8 et le G5, ce forum s'est réuni hier à Rome, et les participants ont refusé de s'engager sur des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les membres du G8 aujourd'hui doivent un peu persuader ceux du G5 d'aller dans leur sens pour lutter contre le réchauffement climatique. On voit bien là qu'on est au début vraiment des négociations sérieuses qui vont s'enchaîner dans les mois qui viennent jusqu'en décembre.
Point d'orgue. Alors moi, ce qui me plaît, c'est une épine dans le pied. Parce que quand on a une épine dans le pied, on est obligé de l'enlever. Et souvent, ça permet de résoudre d'autres difficultés. Je crois que cette question du réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est pas une question de chiffres. C'est une question que tout le monde a peur. Tout le monde se rend compte que on va quand même un petit peu dans le mur. On ne sait pas comment on va en sortir. Et peut-être qu'il faudrait faire glisser le débat, pas seulement sur les questions de chiffres. Je reviens toujours, vous allez croire que je suis une obsédée de cette approche, mais des chiffres, pourquoi faire ? Vous vous levez le matin, vous ne commencez pas par calculer. Vous commencez par vous dire, est-ce que je vais bien ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour passer une journée agréable ? Vous n'allez pas forcément calculer. Il faut reconnaître que cette question du réchauffement climatique, plus que du réchauffement, d'ailleurs, il faut parler de changement climatique, est extrêmement compliqué. Ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est une question de chiffres.
C'est bien d'avoir des objectifs quand même chiffrés pour que tout le monde se mette d'accord.
Certes, mais si on n'arrive pas à avoir des objectifs chiffrés, cherchons pourquoi. Et la solution est ailleurs, elle n'est pas dans les chiffres.
Alors effectivement, vous nous dites que c'est révélateur, effectivement, de la difficulté de nos sociétés, effectivement, il y a tout un débat sur la croissance, etc. Mais on a quand même un problème qui est ce réchauffement climatique, et il faut donner une réponse. Et on sait que pour qu'il y ait une réponse efficace, il faut qu'il y ait une stratégie globale sur l'ensemble du globe. Alors, comment vous répondez techniquement, en tout cas, à ce réchauffement climatique, au-delà, effectivement, de toutes les questions qui posent sur nos modes de société et la nécessité du virage à prendre ?
Je commence par répondre sur la nécessité du virage à prendre. Il n'y a pas de réchauffement climatique, il y a un changement climatique. On n'est pas sûr du tout que nous allons aller vers un réchauffement global. Il va y avoir un changement important. Certaines zones vont être plus chaudes, d'autres plus froides, d'autres inondées. C'est très compliqué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se dire aujourd'hui, au point où nous en sommes, il faut se dire que peut-être nous avons déclenché quelque chose qui nous dépasse. Je crois que beaucoup de personnes sont conscientes de ça. Je ne sais pas si on va pouvoir arrêter ce changement climatique. On l'a déclenché, c'est trop tard. Maintenant, comment faire pour nous adapter le mieux possible ? Deuxièmement, si vraiment tout le monde est persuadé que ce changement climatique est catastrophique, écoutez, c'est très simple. Quand il y a le feu dans une maison, tout le monde sait l'arrêter. Aujourd'hui, je crois que le problème, il est que certaines personnes ont conscience qu'il y a le feu, d'autres qui se disent oui, il y a le feu, mais c'est pas très grave, on va quand même se trouver une petite maison à côté qui est bien inifugée et on va s'en sortir. Parce que si on veut vraiment trouver des solutions, écoutez, il y en a plein, il y a plein de chercheurs aujourd'hui.
Oui, mais il y a des intérêts, tout ça, c'est compliqué.
Ah,
ça me rappelle un certain discours à Johannesburg où la maison brûlait.
La maison brûle, absolument. Mais regardez, depuis Johannesburg, c'est en 2002, Johannesburg. La maison brûle, elle continue à brûler, personne ne fait rien. Donc les solutions, on les a. Ce qu'il y a, c'est que je crois qu'il n'y a pas la volonté politique de l'ensemble des dirigeants de résoudre. Les Russes vous disent ma croissance économique. Ben, s'ils veulent la croissance économique, c'est que la maison brûle pas. Parce que quand la maison brûle, on ne fait pas de croissance économique.
Alors je vous propose tout de suite d'écouter un petit élément sur une initiative, justement, sur un pays qui essaye d'organiser quelque chose pour lutter contre la pollution dans les villes, qui est évidemment un facteur aggravant de ce réchauffement climatique. Alors, au Pérou, par exemple, des ingénieurs ont inventé un super arbre. Découverte de cet objet surprenant avec ce reportage d'Éric Sanson dans les rues de Lima.
Très discret à l'angle des avenues Aviation et Angamos, soyons clairs, le super arbre n'a pas vraiment l'air d'un arbre. Il s'agit d'un grand rectangle de 5 mètres de haut sur 3 de large qui aspire l'air contaminé par les gaz et les particules en suspension et rejette de l'air purifié sur le modèle de la nature, selon l'un de ses inventeurs, l'ingénieur Jorge Gutiérrez.
Fixation de CO2 similar à 1200 arbres,
L'appareil fixe par jour autant de CO2 que 1200 arbres, ainsi que 25% des concentrations totales d'acide nitreux et sulfurique dans l'air. Nous retirons également 100% des particules suspendues. Notre machine rejette de l'air stérilisé, sans germes ni bactéries, un total de 200 000 mètres cubes chaque jour, l'équivalent de la respiration de 20
000 personnes.
Selon la compagnie Tierra Nuestra, notre terre, qui le fabrique, le superarbre n'est pas une idée si nouvelle. Des modèles fonctionnant de la même façon ont déjà été créés il y a des années à Santiago du Chili et à Mexico, mais ces machines gigantesques étaient trop gourmandes en énergie pour être rentables. Testé et approuvé par les ingénieurs de plusieurs universités péruviennes, le PAU-20, lui, est effectif, selon l'ingénieur Gutiérrez. Les contaminants et les particules suspendues dans l'air sont fixés dans de l'eau stérile sous forme de gaz dissous. Avant d'être réutilisée, par exemple pour l'irrigation, cette eau sera filtrée et l'espèce de boue que nous obtiendrons sera déposée dans une décharge spécialement habilitée après avoir été analysée. Faisant à peine plus de bruit qu'un gros ventilateur, le superarbre émet un air purifié que les passants peuvent respirer, comme l'explique José Luis Repeto, directeur de Tierra Nuestra. Là, on se trouve à côté d'un hôpital spécialisé dans la lutte contre le cancer. Les familles et les voisins peuvent se rendre compte eux-mêmes que l'air que rejette notre appareil est sain et purifié et qu'il leur fait du bien. Ils viennent sans
arrêt.
Et pour ceux qui ont pu goûter l'air purifié du super arbre, comme le philosophe Jaime Carrera, le résultat est probant. J'en profite pour m'oxygéner car c'est de l'air pur 100%. Il sort plus sec, je me sens beaucoup mieux au niveau des voies respiratoires et des poumons. Au bout de 5 ou 10 minutes, l'amélioration est totale. Alors que deux super arbres supplémentaires sont en construction, Tierra Nuestra recherche de nouvelles compagnies prêtes à en financer l'installation. Son objectif est d'installer 400 de ces machines d'ici 4 ans. Suffisamment pour résoudre en partie la pollution atmosphérique chronique de la capitale péruvienne.
Françoise Castagny, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'invention ?
Alors déjà, je salue toutes les inventions parce que c'est important d'inventer. Deuxièmement, j'ai une réaction immédiate, construire un super arbre. Mais notre planète a plein d'arbres magnifiques qui sont plus que super, ils sont superbes. Et ils ne sont pas à construire, ils poussent tout seuls si on veut bien leur laisser cette possibilité. Donc ok pour toutes les innovations, pour toutes les solutions plus étonnantes les unes que les autres, mais surtout pourquoi ne pas laisser un petit peu notre nature qui est tellement riche, tellement puissante. Mais les arbres font tout, il y a déjà des arbres qui recyclent dans la mer, si on ne réchauffe pas les océans inutilement, il y a des algues qui absorbent tout le CO2 qu'elles doivent absorber, alors laissons un petit peu les choses se faire normalement. Je sais bien, c'est pas révolutionnaire, peut-être vous aimeriez mieux que je vous dise, mais il y a encore autre chose de plus spectaculaire, mais c'est, la nature est déjà tellement spectaculaire elle-même, laissons-lui cette place, elle est tellement forte, tellement puissante, et on n'a pas besoin de la construire, ça ne coûte rien, ça pousse tout seul les vrais arbres.
Black as night. I don't know
Gardot dans C'est pas du vent sur RFI. Alors, en raison du mouvement de grève qui perturbe les antennes de RFI depuis plus de 8 semaines maintenant, la revue de presse Asie ne peut pas avoir lieu. Dommage pour vous, Françoise Castagny, vous reviendrez. Hein,
oui, très volontiers.
Sous meilleurs auspices. Alors, on rappelle que vous avez créé donc en 2004 un mouvement politique, La Terre sinon rien, pour motiver les électeurs aux élections européennes. Vous leur disiez d'utiliser leur bulletin de vote pour réenchanter leur vie. Et alors, l'une de vos thématiques préférées, c'est, enfin préférée, l'un de vos combats, on va dire, c'est de changer notamment les critères d'évaluation de nos performances économiques.
Et oui, parce que c'est de là que vient une énorme partie de nos difficultés, et c'est quelque chose qui peut être résolu facilement. Alors il faudrait en profiter. Et c'est pour ça que nous avions comme programme pour ces élections européennes de dire il faudrait que le Parlement européen impose à l'ensemble des États européens une mesure de leur économie qui corresponde vraiment à la réalité.
C'est-à-dire ?
Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde, mais pas seulement les Européens, le monde entier raisonne en croissance économique. Quand on dit croissance économique, on parle de la croissance du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est un concept qui a été inventé par les Occidentaux au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné où il fallait reconstruire. Mais maintenant, on n'a plus besoin de reconstruire, et surtout les économies occidentales ne sont plus les leaders. Je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas la revue de presse sur l'Asie, parce qu'en Asie, il se passe des tas de choses très importantes pour nos économies occidentales. Donc aujourd'hui, on n'en est plus à reconstruire, on en est à se dire on a construit trop de choses, on ne sait pas quoi faire de nos déchets, et on n'a pas les énergies qu'il faut pour continuer à fonctionner comme on fonctionne. Donc il faut revoir notre système économique. Pour revoir notre système économique, la première des choses, c'est revoir nos outils de mesure de cette économie, parce qu'on ne peut pas changer une économie si on ne sait pas comment elle fonctionne et comment on la mesure. Donc on a un instrument de mesure qui date de la Deuxième Guerre mondiale. J'aime bien prendre cet exemple. On est dans un avion de chasse, un pilote super sophistiqué, mais figurez-vous, il ne se dirige pas au radar. Il se dirige à la boussole. Le PIB, c'est une boussole manuelle. Et on est à bord d'un avion qui est la mondialisation, qui est un phénomène extrêmement compliqué. Et ça, on croit qu'on va s'en sortir avec une boussole, mais c'est pas possible. Donc, acceptons de refaire les choses. Et ça concerne tous les pays, pas seulement les Occidentaux. Parce que lorsque la Russie vous dit ma croissance économique, elle est piégée, comme tous les autres pays du monde, par notre concept, qui est un concept qui ne correspond plus à rien. Le matin, quand vous vous levez, quand chaque citoyen du monde se lève, personne ne pense à la croissance économique. Hein ? C'est une croissance qui ne correspond à rien.
Alors vous citez justement fréquemment le philosophe Pierre Rabhi, que nous connaissons bien ici sur cette émission, plus n'égale pas mieux, et vous appelez avec lui à l'insurrection des consciences.
Et oui, c'est le vrai sujet. Plus n'égale pas mieux, je crois que tout le monde le sait. On a aujourd'hui beaucoup de choses, et on n'est pas mieux qu'avant. Tout le monde a peur. Le pourcentage des Français qui ont peur de devenir SDF, c'est affligeant.
Sans domicile fixe.
Comment ?
Non, je dis SDF, ça veut dire sans domicile fixe.
Sans domicile fixe, oui, excusez-moi. Sans domicile fixe, sans domicile fixe. Les gens qui ont peur, les économies émergentes, qui ont peur de ne pas arriver à faire comme nous. Mais tout ça, c'est des erreurs de concept. On n'est pas sur les bons paradigmes. Il faut changer notre façon de voir. Plus n'égale pas mieux. Et ce qui compte, c'est l'insurrection des consciences. C'est une démarche individuelle.
Eh bien, vous reviendrez nous en parler, Françoise Castagny. Merci d'être passée dans C'est pas du vent.
C'est
pas du vent revient juste après un bref rappel de l'actualité. Nous parlerons des enjeux des aires marines protégées. À tout de suite.